t'approcher tout près de Jésus, s'approcher tout près de Jésus, le plus proche possible de Jésus, te coller à Jésus, te coller à l'intérieur de ce qui est à l'intérieur de Jésus, te coller pour que tu puisses entendre de lui, arrière de moi Satan, hein, Seigneur. C'est bien ça. Se mettre tout au fond de Jésus, dans l'intime de Jésus, se blottir en lui, être à l'intérieur de lui, l'accompagner de partout, ne jamais le quitter une seconde, une semaine, ni la nuit, ni le jour, dans les profondeurs de son cœur, et là entendre, arrière, passe derrière moi Satan. Ça, c'est une des plus grandes grâces de la vie chrétienne. La grâce de la purification. C'est une prière, c'est une parole d'autorité, Jésus. Il nous prend. Et tout ce qui est obstacle en nous, Satan, c'est tout ce qui se met en travers. Jésus l'arrache, le met derrière, et il n'y a plus que la croix pour nous. Et on est libre. C'est beau ça. Tout ça, il faut être très, 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 très proche, très à l'intime, ne jamais le quitter. Entend des témoignages, je dis, mais alors qu'est-ce qu'il me fait Dieu là? J'ai tout donné, qu'est-ce qu'il me fait là? C'est la purification, c'est une grande grâce. Saint Thomas d'Aquin dit ceci, dit l'absence de croix dans une vie chrétienne, c'est un signe certain de réprobation éternelle. Vous devenez chrétien, en train de nous transformer, à partir de ce moment-là, tout va bien. On gagne au loto, on gagne au tiercé, on a tout juste ce qu'il faut, on a les primes du gouvernement, juste exactement, pas plus, pas moins, mais ça va, tout cool. C'est génial. Absence de croix. L'absence de croix dans une vie est un signe certain de réprobation éternelle. Saint Thomas d'Aquin, docteur principal de l'Église. Alors on n'est pas sur la terre pour ne pas avoir de problème. On est sur la terre pour renverser toutes nos sécurités habituelles, toutes nos constructions, tout ce qu'on avait programmé. Tout ça, allez, renverser par terre. Alléluia. Chouette, tant mieux. Tota vita Christi crux fuit que martyrium, Saint Bernard. Toute la vie du Christ n'a été que croix et martyr. Martyr d'amour, c'est l'amour a tout brûlé en lui, il n'y avait plus rien de lui. Il a enlevé sans arrêt en lui et de ce que son cœur se mettait sans arrêt dans le cœur de ce qui était proche de lui, il brûlait tout, ce qui était obstacle à tout ce qui se mettait, tout ce qui était satanique, à tout ce qui empêchait qu'on soit une brûlure d'amour victime à l'éternel. Et vous voyez, si on se trouve par exemple un jour on se trouve comme ça entre nous et puis que voilà il y a supposons allez, Nicolas Sarkozy se convertit, il reçoit la grâce, il devient catholique en secret, il vient ici, hein? Mais demain il y a la réunion à l'Élysée quand même, donc c'est entre nous. C'est de faire en sorte qu'il ne soit pas là, sur un strapontin. On va lui quand même donner une chaise. On va faire attention. C'est vrai, c'est supposé quelqu'un, supposé que ce soit le roi. Voilà le roi. Le roi de France, ça y est, c'est Louis XX. Louis XX de Bourbon. Et il a été couronné roi de France à Reims. Et il vient suivre une session pour la mise en place du corps spirituel venu d'en haut.
Vous ne savez, savez pas qu'il est le roi de France. Vous savez qu'il est
roi. Ah oui, on sait très bien. C'est là, il y a tout le monde. On ne va pas le mettre tabouré. Bon, on sait qu'il est là. Attention, on va le mettre. C'est Monseigneur, je vous en prie. Avec le petit important. On va prier pour. On va prier la nuit, on va prier. On va prier. Oh, allez, on va prier. Oui, on va prier pour quelqu'un d'important quand même. On va prier. Pour que vraiment Saint-Esprit se. Voilà, fonde dans son cœur. Pour que Jésus, l'Église tout entière, puisse se rassembler, s'engloutir avec l'Immaculée, le ciel tout entier dans son cœur. Voilà, pour qu'il s'enfonce, pour qu'il soit délivré, pour qu'il s'approfondisse. Allez, on va prier pour Sarkozy cette nuit, va. Mais pourquoi tu ne choisis pas pour prendre autorité le plus pauvre de la terre? Celui qui a le moins de qualité, le moins de pouvoir, le moins, le plus de mépris. Si tu pries avec la même intensité, en prenant autorité sur son cœur, celui le plus pauvre de la terre, le plus humilié, et tu pries avec la même intensité, c'est celui-là qui va sauver le monde. Tu pourras prendre autorité sur le cœur du roi, du nouveau roi Hérode de France converti. Ça peut durer des, ça peut durer 10 ans, toutes les nuits. Il ne sauvera pas la France. Pourquoi est-ce que tu mets en avant celui qui est couvert d'or, d'attributs, de pouvoir, plutôt que le pauvre? C'est ce que dit l'Épître de Saint-Jacques, il me semble. Et Saint-Jacques, il dit, mais c'est idiot. C'est pas seulement injuste, c'est complètement idiot. Il vaut mieux prier intensément pour le glandu, le plus glandu de tous les glandus de la terre, que pour le sang le plus noble. Que tout le monde connaît et respecte, et à qui ils font confiance. C'est la noblesse de son sang. Ce qui est cher est cher. Ce qui est esprit est esprit. Et le roi de la terre, c'est l'humble, le petit, le pauvre, le méprisé, l'écrasé. C'est pas vrai ça? Et de temps en temps, j'espère que ça nous arrivera, de temps en temps, de se dire, bah tiens, voilà, aujourd'hui, par exemple, mon intention, c'est que Seigneur, prenant cette Eucharistie, puisqu'il y en a, doit y en avoir qu'un qui reçoive le paraclet sur la terre, que ce soit le plus pauvre de tous les pauvres de tout l'univers en cet instant, celui-là qui reçoit. C'est lui que je choisis pour que. C'est Jésus et moi, voilà, nous prenons autorité pour ça. Oh, ah, si on fait ça. Ah, c'est mieux, disons, voilà. Le plus pauvre de tous les pauvres. Le plus pauvre de tous les pauvres. Le plus petit, le plus. Ce que dit Jésus, hein, le plus grand des enfants de la terre, le plus grand des fils de la femme, le plus petit dans le royaume de Dieu, plus grand que lui, évidemment. C'est exactement la même chose que ce qu'on disait l'autre jour. C'est que les pharisiens, ils pensaient que Dieu s'intéressait, Israël et l'Église, enfin l'Église, la synagogue, enfin bref, tout le ciel tout entier, tous les saints et les prophètes, s'intéressaient à eux parce qu'ils étaient aux heures du Messie et qu'ils étaient vraiment les hommes les plus pieux, les plus adaptés à la venue du Messie en raison de leur obéissance absolue, parfaite, mystique, profonde, douce, pleine d'onction, d'intériorité, de douceur, de tolérance, d'ouverture, de compréhension et d'accueil de la Torah. Messie, il nous enfonçait dans le noyau le plus bas de la matière vivante du pécheur. Celui qui est humilié par son péché. Pharisien, il dit, moi, Seigneur, je voudrais bien. Je suis certainement pécheur, mais je ne vois pas mon péché. J'ai pas de péché, mais je me donne à toi. Et il en parle, Jésus, à un moment, ça. Hein. Celui qui dit, je n'ai pas de péché, est aveugle. Et celui qui est anéanti. Il est plus profond que la mort, il est plus profond que le désastre de toute vie humaine. C'est le pauvre par excellence. Voilà. L'indigne à ses propres yeux et aux yeux effectifs des autres gens. Hein. On ne doit quand même pas se mettre à côté de lui, à table. Celui-là, c'est Jésus. Jésus, lui, c'est pareil. Jésus, il s'est identifié au plus pauvre. Ça ne veut pas dire qu'il faut surtout éviter à tout prix d'avoir les vertus, les qualités spirituelles du cœur. Hein. La loyauté, la magnanimité, la bienveillance, la splendidité, la sponsalité, la virginité, la transparence, la confiance, enfin bref, il y a la liste, page 18 et 19, sur le combat spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. Ça veut plus ces qualités apparaissent, plus tu vois que tu ne les as pas. Plus tu es humble, plus tu vois que l'orgueil est encore là. Plus tu es chaste, plus tu vois que ta virginité n'est pas encore accomplie. Du cœur. C'est curieux ça, hein? Quelqu'un qui est complètement dans le vice, si tout le monde le sait bien, on a fait l'expérience, hélas, mais on est complètement dans le vice, la perversion, les égouts, quand on y met son cœur, sa volonté, ses actes et ses choix, qu'on est persévère, puis qu'on veut y aller de plus en plus, puis qu'on veut y continuer, puis c'est tout. Après tout, on trouve ça bien, et puis c'est normal, puis c'est la vie, et c'est normal, et, c'est même, c'est la, et l'amour, c'est même ça, alors. C'est même ça, l'amour, finalement. Véritable amitié, hein. Et donc, plus on est dans la perversion, moins on voit ce que c'est que l'impureté. Plus on est dans la pureté, moins on voit la différence entre la pureté et l'impureté. Mais quand tu es dans la pureté, quand tu es d'une neige immaculée, parfaite, une seule goutte de sang, tu le vois tout de suite. Quand tu es fabriqué avec une boue pleine de goudron, etc., une goutte d'huile dessus, tu ne le vois même pas. Tu ne peux pas voir ce que c'est que l'impureté quand tu es impur. Et il en est de même des 88 qualités humaines profondes de l'enfant, de l'homme dans son cœur humain, ouvert à l'amour victimal éternel, parfait, accompli de Dieu, de Jésus. C'est pour ça que ce qui intéresse Jésus, ce qui intéresse le cœur eucharistique miséricordieux d'amour, le Sacré-Cœur du Seigneur, c'est le pauvre. C'est à cause de ça. Parce que le pauvre, il sait, il voit, il est petit. Il atteint les sous-fondements, les ténèbres, les racines, les abîmes qui sont en dessous de son innocence. C'est bien, je trouve, de retrouver précisément cette innocence divine où nous étions finalement unis à ce qui était l'unité immaculée de lumière, d'amour et de liberté de Dieu dans notre existence et notre vie commençant, prête à traverser toutes les ténèbres en les illuminant de cette lumière de l'unité avec Dieu, mais aller encore plus, à cause du péché originel, les transgressions du monde, aller non pas dedans, mais ni au-delà, mais aller plus profond encore. Avant que nous existions dans le néant, c'est le néant que nous avons été créé, jusqu'à l'hypostase primordiale du Messie qui s'est jeté dans la terre pour pouvoir, avant que ne émane le monde angélique de la lumière et le monde de l'existence, de l'image ressemblance de Dieu dans tous les temps et dans l'éternité, aller jusque-là pour voir, aller jusqu'à l'union hypostatique de Jésus pour voir l'abîme de notre pauvreté, percevoir qui est celui qui est cette union hypostatique primordiale désirée éternellement dans l'au-delà de tout amour, percevoir le pauvre par excellence dans notre pauvreté, dans notre petitesse, dans ce qui est même plus profond que la plus petitesse de notre petitesse. Aller toujours plus profond avant nous-mêmes pour voir à quel point nous-mêmes nous avons échappé. Et nous pouvons évidemment aller en deçà et dans la paternité d'amour de Dieu, retrouver la pauvreté. C'est pour ça que c'est bien, j'ai aimé ce qu'il y a, par exemple, à l'intérieur de nous, est le plus ravagé. Au lieu de se regarder dans la glace, non, finalement, je suis assez joli. Il me semble que je m'améliore. Je ne suis plus comme avant. Non, aimer en nous, c'est le plus ravagé. C'est beau ça. L'amour de la pauvreté, l'esprit de pauvreté, c'est. Comment je pourrais appeler ça? C'est pas seulement accepter ces pauvretés de fait. On a tous des pauvretés de fait. On a des défauts, on a des faiblesses. On peut être moche. On peut être objectivement pénible. Lourdingue. On peut être maladroit. Faible. Impuissant d'amour, impuissant de prière, impuissant de... Oh, dit-on, être impuissant de prière. Enfin quelqu'un qui va pouvoir faire oraison. Oh, merci Seigneur. J'ai touché en moi ce côté. Mais alors, nullissime, celui qui est incapable. De t'asseoir en toi, dans ton oraison, le roi rutilant, plein d'anneaux et d'alliances, de toutes les richesses que tu as reçues de la grâce charismatique au dingo de Dieu, qui fait que tu n'es plus comme avant, comme ces gens-là, qui qui était comme moi avant. Alors du coup, je sais comment faire pour la prière. Ah, bon. Formidable. Marie, elle ne sait pas. C'est comment? Je ne sais pas. Elle l'a dit, ça, devant le Gabriel. Et toi, tu sais? Ah ben, mais je sais, c'est la nouvelle de l'enfant Jésus, j'associe ça à la nouvelle hérésie du Sacré-Cœur de Jésus, et au cheval de Saint-Jean de l'Apocalypse, hein, je fais le raté lui-même, la nouvelle hérésie au cheval blanc de l'Apocalypse de Saint-Jean, je, ça c'est génial, j'associe les trois, en plus en association avec Anne d'Autriche, alors là, vraiment c'est bon. Moi je sais comment faire par la prière, ça c'est très bien. Bon, bien sûr, il faut avoir fait la nouvelle de San Damiano, bien entendu. Bien. Faites la 21e du cheval blanc de l'Apocalypse. Ça, c'est pas moi qui vous dis le contraire. Mais on n'a pas dit qu'il fallait mettre le roi au fond des chiottes. Donc, Louis XX Bourbon vient au milieu de nous. Bon, ben, il est là, très bien. On va le prendre, hein, Francesco, et toi et moi, on le prend par les épaules et hop, au fond de la cuve des chiottes. Non, pas ça. Il est là, avec les autres, et on s'occupe du plus pauvre. Tout le monde est invité. Il ne nous intéresse pas plus que les autres. Parce que celui qui nous intéresse, c'est le seul, l'unique, qui sur toute la terre peut permettre à Jésus de rencontrer le Père dans le fond de la pauvreté de toute la nature humaine tout entière. Le plus pauvre de tous. C'est pas vrai, ça? Et en nous, c'est pareil. Chacun d'entre nous, on est tout un monde intérieur, on est un peuple tout entier. On est la communauté adamique tout entière, la nature humaine tout entière, dès qu'on est dans la cinquième demeure, l'humanité tout entière est là. Hein. C'est notre monde intérieur, c'est ça. Et on peut pas ne pas le voir, en plus. Pas une imagination. Extraordinaire. Le récepteur spirituel de la pauvreté substantielle surnaturelle des membres vivants de ces survivants. La grâce de Jésus fait de nous des crucifiés et les plus pauvres de tous les pauvres de tous les temps. Et il faut aimer en nous là où on est vraiment très 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 pauvre. Et où il n'y a plus aucune place pour l'arrogance. La prétention d'être quelqu'un au milieu des arbres. Et si une nouvelle détresse nous atteint, elle a grandi cette humiliation, cet abîme de pauvreté. Et du coup, une joie immense nous envahit à cause de ça. Bon, personne ici n'en est au stade que quand une épreuve lui arrive, il dit « Oh, encore une épreuve !» Là, je sais que vous avez dépassé cette horrible réaction qui est satanique, hein. Dès qu'il y a une épreuve, c'est une immense visite de Dieu. C'est un cadeau du Seigneur, c'est un cadeau du ciel à la terre tout entière. Donc quand nous avons une épreuve, personne d'entre vous, je le sais maintenant, vous êtes quand même un petit peu passé quand même au-dessus du niveau de la mer quand même. Hein, vous êtes sorti de l'athéisme absolu. Hein, donc si une épreuve vous arrive, tout de suite, immédiatement, enfin une épreuve. C'est le début de la vie spirituelle, ça. Hein. C'est pas le sens de la pauvreté spirituelle. Où est le sens de la lumière? Où est la liberté? Où est la petitesse? Bon, voilà. Bon. Mais même, ça c'est pas, c'est bien, mais c'est pas encore, c'est dans Saint-Benoît, c'est le troisième degré d'humilité. C'est-à-dire, c'est encore humain. C'est une humilité qui est encore humaine, disons, vous voyez, pour Saint-Benoît. Il faut que l'humilité soit plus radicale. J'accepte mes pauvretés de fait. Ça, c'est un deuxième degré d'humilité. Si les pauvretés de fait, je les aime. Hein. Si Dieu m'a créé pauvre, avec des limites, je suis moche, je suis laid, je suis pas doué. Hein, tous mes frères, ils sont doués, mes sœurs sont douées. Moi, je suis pas doué. Je suis le débile de la maison. J'ai toujours été comme ça. Alléluia. Alléluia. Moi, ma mère me disait toujours, on était sept. Tu ne pourras faire qu'une seule chose, c'est balayeur de la rue. Et moi, je disais Alléluia, ça ne me gêne pas. Dans la salle poubelle. Et elle avait raison, elle était prophète. J'arrête pas de ramasser des poupées. Et vous êtes les poubelles. C'est vrai, il y a des animaux dans la création qui sont repoussants. Il y a des animaux qui sont plaisants, si vous voulez. Mais c'est vrai, mais il y en a qui sont repoussants. Oh. Et quelquefois, dans une famille, voilà, on est le plus repoussant de tous les autres. Oh, c'est rare, encore mieux. J'espère que c'est vous. J'espère pour vous que c'est vous. C'est le cinglé, c'est le fou, c'est le fêlé, quoi. C'est le débile, c'est le mec enfermé. Pas Jean-Marc. Non. Non, les autres. Les autres. Oui. Eh bien, c'est une... À un moment donné, donc voilà, quatrième degré d'humilité de Saint-Benoît, c'est à un moment donné, ça y est, on trouve une joie profonde à être non seulement pauvre, bon, pas aimable, humainement, malgré tous les efforts qu'on fait, évidemment, si vous faites tous les efforts possibles, que tout le monde vous déteste, c'est pas pareil. C'est pas de l'humilité. Quand Saint-Père est en train de parler à tout le monde un secret qui est important pour le salut du monde, vous hurlez votre conversation au milieu à côté, ou vous bavardez à côté dans le micro. Ah, c'est détestable, mais c'est de l'orgueil, c'est pas de l'humilité. C'est évident. Mais d'être humainement détestable alors que vous faites tout pour être attentif, pour aider, ça c'est bien, pour respecter, pour obéir. Hein, pauvreté, virginité, obéissance, il y a les trois, et pourtant, faisant cela, toutes vos forces héroïquement, vous êtes quand même. Ah! Waouh! Alléluia. Oh, celui-là. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Il y a des gens qui sont d'une intelligence. Tout le monde les aime. C'est bien. C'est parce que c'est quelqu'un d'extrêmement dans une sagesse profonde d'avant la fondation du monde, si je puis dire. Dans une obéissance totale à la Créateur de Dieu pour tout ce qui existe. Resplendit de cette bienveillance surabondante qui fait que tout l'univers s'inscrit en lui dès avant la fondation du monde, attire effectivement tout à lui et fait qu'il a la sagesse. Alors, il est resplendit d'intelligence, mais cette intelligence vient pas de lui, elle vient de sa propre tête. Alors, c'est pas d'être intelligent, d'être resplendit, ou d'être malade qui compte. Ce qui compte, c'est d'être pauvre. Quand on est pauvre, sur le plan religieux, je ne parle pas encore sur le plan chrétien, sur le plan simplement religieux de la sagesse naturelle de l'homme, celui qui est lié à son Créateur, qui vit dans cette lumière créatrice, librement, dans une totale pauvreté, humilité, disponibilité à toute chose possible et existante, dans la lumière, et qui se nourrit précisément de l'humilité encore plus profonde de Dieu, et qui en lui s'efface devant sa propre pauvreté. Et bien, il trouve là justement de quoi réaliser dans la toute petitesse l'unité même, de la toute petitesse du principe de tout. Donc l'humilité de sagesse, c'est une petite main pauvre. Qui ne dépend que de l'ordre. Quand tu es un dans l'un, tu es dans la dépendance de l'ordre. L'un, c'est la relation à l'ordre. En Dieu, c'est ça. Concile de Chalcédoine, là, la très sainte Trinité, c'est la relation subsistante. De l'un dans l'autre, l'autre dans l'un. C'est ce qui fait la très sainte Trinité, Concile de Chalcédoine. Ce sont des relations substantielles, subsistantes, agréées, dans l'un. L'un, c'est la relation à l'autre. C'est le mystère de la très sainte Trinité qui nous révèle cela comme étant une vérité éternelle. Et qu'une petite porte secrète pour expliquer le fond, le noyau de l'humilité, le noyau de l'esprit de pauvreté, dans la sagesse initiale du pouvoir qui nous a été donné dans cette humilité originelle qui a été la nôtre, elle nous a été donnée, elle est toujours là, on peut la retrouver, l'intensifier, bien sûr. Et donc, quand on vit de l'esprit de pauvreté, on n'a aucune revendication. On dépend de l'autre. On n'a aucun droit. Et on trouve ça tout à fait normal. Je suis le plus souillon, pour mettre une cédille, de tous mes frères et sœurs. Il y a l'héritage. Ils ont tous droit à l'héritage et moi, rien. Et bien c'est normal. Normal. Le pauvre estime qu'il n'a aucun droit. Et il aime ça. Mais les autres enlèvent le droit naturel au pauvre et eux trouvent ça normal. Qu'elle mette sous curatelle. Comme ça en Afrique. On fait ça même avec sa mère. C'est pas de l'humilité de faire ça. Mais toi, si tu es pauvre, tu as renoncé à tous tes droits. Même les droits, normalement, même les droits qui sont prévus, j'allais dire, par les lois de la nature et les lois de la sociale, les lois communes, les lois normales, les lois de la justice, et même des lois éternelles. C'est le cinquième degré d'humilité. J'aime, dans l'humilité, de manière telle que j'ai renoncé à tous mes droits. Donc si on me considère comme n'ayant aucun droit, alors que normalement, n'importe qui dirait, mais attendez, c'est mon droit tout de même d'avoir une part de l'héritage, au moins un peu. Hein. Prenez les trois quarts si vous voulez de ma part, mais laissez-moi un peu. Que je puisse m'acheter une bicyclette quand même. Vous aurez votre appartement à la rue Hoche de Paris, mais je voudrais une bicyclette. Non, non. Je leur dis quand même, vous exagérez. Hein. Non, c'est rien. Je trouve ça très bien. Cinquième degré d'humilité. Je trouve ça normal, et j'aime être comme ça. Ça. Bon, vous avez atteint quand même au moins un cinquième degré d'humilité pour être dans la cinquième demeure. Quand même. J'ai quand même le droit qu'on reconnaisse quand même ce que j'ai fait pour Dieu dans la paroisse. Dans le groupe de prière, oh! Je suis plus important dans le groupe de prière que le berger. Mais... C'est le berger qui note pour la prochaine séance de groupe de prière. Là, j'apporte de l'eau à ton moulin, mais le berger, il doit faire pareil. N'est-ce pas? Il faut connaître les degrés d'humilité de Saint-Benoît, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, hein? Toi, tu entends les degrés d'humilité de Saint-Benoît tous les soirs, tu as participé au chapitre, tu nous as parlé à la parole. Hein? Chez Bénédictin, chez tous les moines, on entend les degrés d'humilité de Saint-Benoît sans arrêt toute l'année. C'est que ça. Pareil que Saint-Benoît, degré d'humilité. C'est pour ça que quand on est catholique, on se consacre à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. On s'engloutit dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. On s'engloutit, on disparaît délicieusement dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la révélation de l'esprit de pauvreté, de virginité, d'obéissance. C'est comme ça que le dit l'Église. L'Église résume en trois mots tout l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit de virginité, esprit d'obéissance, esprit de pauvreté. C'est pour ça que les religieux, vous savez, les carmélites, les bénédictins, et même les jeunes chevaux blancs de l'Apocalypse de Saint-Jean, font les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, sur l'autel de l'Eucharistie. Ils signent dans le sang du Christ. Ils s'engloutissent dans l'esprit de pauvreté, à partir de cet instant, jusqu'à la mort et au-delà. Ouais. Alors, quand même, j'ai ma place dans la famille. Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, quand même, le savait. Hein. Et tout le monde était finalement pas mécontent qu'elle s'occupe des novices, elle était maîtresse, c'était novice, professe perpétuelle. C'est quand même le numéro 2 d'une communauté religieuse. Et elle avait sa place quand même, la communauté avait normalement tout le droit de participer à la vie de la communauté. Au chapitre, elle n'était pas admise. Non, pas. Pas vous, Thérèse, quand même. Pourtant, dans le droit canon, c'est tout à fait contraire au droit canon. Il n'y a pas son mot à dire au chapitre. Ah, elle a dit alléluia, heureusement. Merci Seigneur. Elle n'a pas dit, enfin c'est mon droit quand même. Je vais écrire à l'évêque. Pour qu'il dise à la prieure, vous devez faire respecter le droit de l'Église dans votre Carmel. Oh, qu'est-ce qu'elle était heureuse de ça! Elle avait renoncé à tous ses droits. Elle vivait des vœux évangéliques. Elle était encore plus petite que les plus petits. Les enfants avortés, qui étaient son modèle. C'était le modèle. Ils ont perdu tous leurs droits. Ils en sont heureux. Ce sont eux les apôtres du dernier temps. Le baptême de l'humanité tout entière. La délivrance de toute iniquité. L'innocence crucifiée triomphante dans l'innocence divine de la pauvreté substantielle et incréée du Christ en Dieu. L'agneau. Donc, cinquième degré, hein. Il va se consolider surnaturellement dans le cœur de Marie, dans le cœur de l'Église, dans la foi et l'espérance et la charité chrétienne. Et dans la foi, l'espérance, la charité, renoncer à tous ses droits, ça revient à quoi? Ça veut dire que je me laisse dépouiller de toutes les grâces divines intérieures de Dieu. Pour m'enfoncer dans la nuit de la croix. Et qu'il n'y ait plus aucune différence entre la croix, l'intérieur de la croix de Jésus et moi, sixième degré d'humilité. Là, ça commence à devenir chrétien, vous voyez. Commence à y avoir de l'amour. Véritable lié à l'humilité. Ah, il y a forcément une nourriture. Il y a forcément une nourriture virginale, une pureté dans l'amour qui rend cet amour vrai. Et la nourriture de l'esprit de virginité, c'est la. Je vous l'ai dit hier. Ce qui nourrit l'esprit de virginité, c'est l'agneau. Alors, de là, ne vous inquiétez pas. L'humilité peut aller plus avant encore, dans le huitième. Jusqu'au 11e degré d'humilité. Des splendeurs cachées aux propres yeux de celui qui est pauvre et humble. C'est la stupéfaction de la nature elle-même. Vous savez, je crois que moi, c'est quoi qu'on a vu de nos yeux. C'est des gens qui étaient dans le 11e degré d'humilité et quand ils passaient, ils étaient tellement engloutis dans les profondeurs de l'humiliation, d'une humilité qui s'humilie encore plus que, presque encore plus que, je sais pas, j'allais dire une bêtise, mais presque encore plus que celle de Dieu dans Jésus. Parce que Jésus, il a quand même, en même temps, toujours dans son humilité, la splendeur de la lumière gloriée, hein. Alors on a vu ces hommes, quand ils passent, même les fleurs se sort comme ça vers les corps, ils avancent. Et ils ne le voient pas. Hein. Ça veut dire toutes les vertus, toutes les qualités humaines, spirituelles et divines sont attirées par l'humilité. Je vous affirme, je l'ai vu une fois de mes yeux. Une espèce d'attraction irrésistible que celui qui est humble au 10e et 11e degré d'humilité fait que son humilité attire les gens qui le voient en lui, et une fois qu'il est passé, les autres sont devenus humbles, ils ne savent pas pourquoi, et lui non plus. Et quand on reçoit le baptême, et qu'on vit du baptême, c'est-à-dire vivre du baptême, c'est le ressent. Hein. Baptême, c'est un sacrement, le fruit du sacrement, c'est l'union transformante. Donc quand on vit du baptême, on se consacre hein, sur l'autel sublime et céleste de l'agneau, à une humilité éternelle. L'humilité éternelle, c'est l'attraction de toutes les pauvretés transformées en amour émanant de l'agneau qui ouvre les portes à l'aspiration de l'épouse et de l'Esprit Saint, qui est si grande comme passivité. Elle dit viens à toutes les profondeurs principielles de l'amour à l'état de soi. Et comme nous sommes baptisés, nous enfonçons dans l'autel de la messe, dans l'autel sublime et céleste, cet autel-là. Et nous signons, nous consacrons de manière évangélique. Virginale, dans une obéissance brûlante, en allant au-devant, chaque fois, cette pauvreté parfaite. Saint François d'Assise était extraordinairement englouti dans cet acte quotidien de sa respiration de chaque moment de sa vie. Ce que je viens de vous dire là, c'est des explications de Saint François d'Assise. Hein. Saint François d'Assise, c'est pas les petits oiseaux. Le soleil, qu'est-ce qu'il est beau. La chaleur, qu'est-ce qu'elle est agréable. Béni sois-tu pour la chaleur, béni sois-tu pour le soleil, béni sois-tu pour les oiseaux. Béni sois-tu pour le caniche. Béni sois-tu pour le dentifrice. Non. C'est pas ça. Ça du tout, béni sois-tu pour la lumière, béni sois-tu pour Frère Soleil, bien sûr, vous savez pourquoi. Il a mis 8 ans à construire le chant des créatures qu'on chante. Il a mis 8 ans, et à chaque fois qu'il a rajouté une strophe, vous savez c'était à quelle occasion? Par exemple, ses yeux étaient tellement abîmés qu'ils brûlaient comme martre pain. Il voyait pas bien, c'était dur, ça lui brûlait. Alors, il était dans l'obéissance à l'évêque, c'est l'évêque qui dit, au nom de la sainte obéissance, c'est de vous soigner. Il s'est mis entre les mains des médecins, obligé, enfin je veux dire, il n'a aucun droit de soigner. Vous savez comment il enseignait? Avec de la chauve vive et un fer rouge dans l'œil. C'est là qu'il a dit, béni sois-tu pour frère feu. Il est doux, ardent et fort. C'était insupportable. Et le soleil, qui est sorti du caveau. C'est là que le soleil lui a brûlé les yeux. Il avait, vous savez, quand vous avez mal aux yeux, ça fait comme un mal de tête, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler, une espèce de céphalée au niveau des cornes des yeux. Ça fait très 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 mal. Béni sois-tu, mon frère soleil. Et à chaque fois, donc, vous avez une strophe de saint François d'Assise, c'est les choses de la nature qui vous mettaient dans un état de destruction, de douleur, d'impuissance. Alors, il a épousé dans la pauvreté, il s'est englouti dans l'esprit de pauvreté, de facilité, pour nourrir précisément cette humilité dans l'humilité de Dieu. Voilà, et donc, aussitôt qu'on est très très proche, très très proche, très très proche de l'humilité, de la pauvreté, de l'immense pauvreté de Jésus, de Marie, de Joseph. Mais cette humilité-là a été prise, assumée, splendidifiée, glorifiée dans la résurrection. Mais c'est toujours une humilité. Et toujours une pauvreté spirituelle. Mais elle est ressuscitée, c'est-à-dire elle est centuplée. Pour ne pas dire milluplée. C'est pas du tout la disparition de l'humilité et de la pauvreté, la résurrection. Sa magnificence. Et donc quand on s'engloutit dans la pauvreté de l'agneau, dans l'autel, l'autel c'est la pauvreté commune, l'unique plaie de Jésus, Marie, Joseph, dans l'unique chair glorifiée et déchirée de la résurrection, qui a glorifié cette déchirure, dans une unique plaie d'ouverture vers la lumière et l'amour. Il y a l'intérêt des processions divines, la très sainte Trinité elle-même, bien au-delà des gloires de la résurrection. Lorsqu'on se met tout proche de Jésus, de Marie-Joseph, de l'agneau, quoi, enfin, de cette union hypostatique déchirée, remplie de gloire dans l'au-delà de la gloire, lorsqu'on s'engloutit dans cette plus grande pauvreté possible qui existe dans le ciel et dans la terre, alors à ce moment-là, une fois qu'on est là, c'est merveilleux. C'est vrai. Et voilà, je reviens à la première phrase de notre méditation. Nous entendons alors Jésus qui se tourne vers nous et qui nous dit « Passe derrière moi, Satan. » D'être regardé, reconnu pour ce que nous sommes, c'est-à-dire Satan, à cause du fait qu'on n'est pas assez humble, la plus grande joie de notre vie chrétienne. C'est la joie des pauvres. La joie parfaite. C'est la leçon hein, de l'évangile d'aujourd'hui, ça. Alors, c'est pas nous qui allons la fabriquer, l'humilité. Hein. Essayez de fabriquer l'humilité. Hein. Allez-y, à la force du poignet, allez-y. Bonne chance. Bonne chance. Mais priez, oui. Priez, prions. Prions et demandons à chaque Eucharistie, à chaque oraison, que le Seigneur nous engloutisse et nous recrée dans une humilité parfaite. Et que nous soyons comme l'expression dans notre oraison de l'humilité substantielle de l'humanité tout entière en Dieu. Nous pouvons le demander et Dieu fera jaillir en nous une humilité nouvelle, si nous le lui demandons, sur le plan social, ce ne sera pas forcément la joie, hein, mais sur le plan de la perfection, ce sera la joie absolue. Si on le demande, l'absence de croix dans une vie est un signe certain de réprobation. Je n'ai jamais désiré la croix, je n'ai jamais demandé qu'une souffrance puisse se transformer en amour. Je ne veux ni souffrance ni amour, donc je ne veux pas de croix. Mais je la demande jamais, donc je ne demande jamais l'humilité. Et là, je suis sûr, certain, que je suis destiné à l'enfer éternel. Saint Thomas d'Aquin. Ah, hein. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait l'esprit du monde d'aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas exactement la spiritualité de l'Antichrist, ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'espère que je ne fais peur à personne. De toute façon, je dis ça calmement avec vous, parce que je sais qu'il y a longtemps que vous êtes sortis de cette erreur grotesque de ceux qui n'aiment pas la croix. Puisque vous dites toutes les raisons de Sainte Brigitte, pour vous, Jésus crucifié, vous, c'est pareil. Et je parle pour les autres.
Hey, yeah.